I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, ce n'est pas un seul ni deux, mais bien trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission. La première est journaliste cinéma pour la chaîne Ciné+, les magazines Rokirama et Revue et Corrigée, et productrice de l'excellent podcast Silence Elle Tourne, diffusé lui aussi sur Tsugi Radio. Cette personne formidable, c'est Esther Brejon. Salut Esther.
Salut Thibaut.
Comment ça va?
Ben ça va bien, merci, je suis très contente d'être là.
Eh ben écoute, le plaisir est partagé, bienvenue dans l'émission. Ma deuxième invitée est membre du podcast 2 heures de perdu, elle est aussi et surtout scénariste et a travaillé sur les séries Balthazar et HPI sur TF1, Weekend Family sur Disney+, ou encore Endless Night sur Netflix. Bonjour Juliana Grignon.
Bonjour Thibaut.
Comment ça va?
Bah ça va, je suis très contente d'être là.
Écoute, pareillement, bienvenue dans Année Lumière. Enfin, last but not least, mon troisième invité est auteur, journaliste, réalisateur de documentaires. Vous avez pu le lire dans Libération ou Rokirama, le voir dans l'émission Joe et Nico sur MCM, ou entendre sa voix dans 50 Minutes Inside sur TF1 avec Nico Saliagas. Ce trublion touche à tout. C'est Nico Pratt. Salut Nico.
Bonsoir. Ça va?
Ben écoute, ça va bien.
Je suis très content d'être là.
On est bien réunis pour faire effectivement une émission un petit peu particulière de cinéma, puisque ce mois-ci, une fois n'est pas coutume, on ne va pas se balader dans un millésime lointain, mais bien dresser le bilan de l'année de cinéma en cours, et oui, 2022. Un exercice différent, la tête dans le guidon, et sans que ces films soient passés au tamis de l'histoire. Et des films, il y en a eu cette année, des blockbusters impressionnants, des retours en fanfare improbables, des propositions folles sur notre monde en détresse, notre société égocentrée et les humains étonnants qui la peuplent. Bref, aujourd'hui, on parle de 2022. Chanté par Harry Styles, on écoutait ça en 2022. Et vous, vous avez écouté quoi en 2022? Pas Harry Styles du coup? Julie, t'as écouté quoi en 2022?
Pas vraiment Harry Styles, outre la BO d'Enkento qui a tourné en boucle et qui est dans mon top Spotify.
Bruno
entre autres, mais vraiment tout l'album. Et la BO de Sing 2, j'ai beaucoup écouté récemment le dernier album de Phoenix que je trouve vraiment chouette.
Et pas mal.
C'est de très 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 plaisant.
D'accord. Esther, est-ce que tu as... Je sais que je te prends un peu au dépourvu.
Ouais, mais
comme
tu
ça,
fais des questions pièges.
Ah ouais.
J'écoute beaucoup des choses en boucle, donc je peux pas te citer énormément de noms, mais j'ai beaucoup écouté le nouvel album de L'Homme Pâle.
Ah.
Voilà.
J'en ai beaucoup
parlé aussi. Ouais, très très cool. Et j'ai beaucoup écouté la BO d'un film dont on parlera tout à l'heure, qui est Licorice Pizza.
Formidable. Oui, c'est une BO assez magnifique effectivement. Et Nico?
Moi, la chanson que j'ai le plus écoutée cette année, c'est une chanson d'un groupe britannique qui s'appelle White Lies, et la chanson s'appelle Death.
D'accord, voilà, c'était dans ton top Spotify.
Ouais, voilà, exactement. C'était tout en haut de mon top. C'est pas une chanson récente, mais c'est un petit tube pop rock, j'ai envie de dire.
Le tube de l'année 2022.
Mon tube de l'année 2022.
Et 2022, c'est l'année, rappelons-nous, bien sûr, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier et de la guerre toujours en cours entre les deux pays, de la mort de la reine d'Angleterre Elisabeth II après 70 ans de règne et du cinéaste Jean-Luc Godard, l'un des pères fondateurs de la Nouvelle Vague. C'est l'année aussi où l'humanité a dépassé la barre des 8 milliards d'individus, de la claque donnée par Will Smith à Chris Rock pendant les Oscars, on l'avait oublié, mais de la réélection d'Emmanuel Macron en tant que président français, de la fin de carrière du tennisman Roger Federer ou encore de la Coupe du Monde au Qatar. Mais 2022, c'était aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et cette année-là, au milieu des nombreuses marveleries, Tom Cruise s'envole dans les nuages du box-office avec Top Gun Maverick pendant que James Cameron retourne sur Pandora avec Avatar, la Voix de l'eau. Cannes donne sa seconde palme d'or à Ruben Östlund pour Sans filtre. Le public vibre devant Elvis de Baz Luhrmann, frissonne devant Nope de Jordan Peele et s'installe un peu plus devant les plateformes de streaming pour s'offrir, ironiquement, leur part de cinéma. Justement, qu'est-ce qui a fait le cinéma en 2022? Quel a été, selon nous, l'événement ciné qui a marqué l'année? C'est le sujet du premier thème de l'émission. I never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody like you. You're never not on my mind. Oh my, oh my. I'm never not by your side. Your side, your side. I'm never gonna let you cry. Oh cry, no cry. I'm never not be alright. Oh, I'll die, alright. Nobody Like You de Billie Eilish et Phineas. Alors effectivement, si vous avez un petit mood année 2000, c'est normal puisque c'est un film, une musique de film qui est bien sortie en 2022 puisque c'est la musique du film Alerte Rouge des studios Pixar et dont on va parler dans ce premier thème. Et c'est un film qui se passe dans les années 2000 au milieu des Backstreet Boys et des boys bands. Voilà, donc c'était une musique tout à fait à propos. Et d'habitude, on a le recul de l'histoire pour nous aider dans les lumières. Tout ça est dépoussiéré pour nous éclairer. Mais du coup, ça offre une perspective intéressante parce que pour l'occasion, ça peut nous dire, dans la lumière, quel est selon vous l'événement cinéma de 2022? Et je vais commencer par toi, Esther, parce que tu vas nous parler d'un film et d'une thématique qui a grandi depuis ces dernières années et qui a aujourd'hui une résonance assez particulière. Tu voulais nous parler de quel film, Esther?
Alors, je suis désolée parce qu'on va commencer du coup l'émission dans une ambiance pas très joyeuse. Mais oui, moi, je voulais parler du scandale des Amandiers parce que pour moi, c'est l'événement, en tout cas de cette fin d'année. Bon, du coup, vu qu'on n'a pas encore le recul, je trouve que c'est important d'en parler, que ce n'était pas possible de parler de 2022 sans parler de cette affaire.
Alors, rappelons Les Amandiers, film de
Donc, le film de Valeria Bruni-Tedeschi, qui est sorti il y a quelques semaines, qui raconte sa formation à l'école du théâtre des Amandiers dans les années 80, aux côtés d'immenses acteurs comme Agnès Jaoui, Vincent Pérez, donc voilà, sous la direction de Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et donc, un des acteurs principaux du film, Sofiane Benacer, a été mis en examen. On l'a appris grâce à une enquête de Libé pour viol et violence sur d'anciennes compagnes. Et ce qu'on apprend en fait dans l'enquête de Libération, c'est que la production et la réalisatrice étaient au courant de ces accusations, mais ont choisi de le garder dans le film.
Terrible.
Et il s'avère qu'entre-temps, en plus, il est devenu donc le compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi. Donc on comprend un peu plus pourquoi elle n'a pas voulu le retirer du film. Ça rend aussi la chose, l'affaire assez compliquée. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on a l'impression que MeToo a eu un peu du mal à prendre en France à chaque fois qu'on a un réalisateur ou des acteurs qui sont, enfin surtout des réels qui sont accusés par des femmes. Finalement, ça tombe un peu aux oubliettes. Ouais. C'est des acteurs et des réalisateurs qui continuent de tourner.
Et pourtant, ça nous rappelle avec ce film-là et cette affaire-là, véritablement, parce que c'est au-delà du film, c'est une affaire... plus large, que oui, c'est une question qui est toujours présente et qui arrive trop régulièrement.
Oui, et puis là, j'ai l'impression que Libé se positionne un peu, comme le... Enfin, ça fait écho au film She Said, qui est sorti à peu près en même temps, de Maria Schrader, sur justement l'enquête sur Harvey Weinstein de deux journalistes du New York Times, qui ont contribué à l'effondrement de Harvey Weinstein, de son piédestal, et à l'affaire MeToo. Et en fait, je me dis, peut-être... Enfin, il y a vraiment une coïncidence en termes de timing entre ces deux événements-là, et c'est comme si Libé se positionnait un peu aussi en tant que média volontariste sur la question des violences sexuelles. Et Sofiane Benacer a été par exemple retirée de la liste de l'Académie des Césars pour concourir au meilleur espoir masculin. Et donc je me dis, malgré évidemment la défense de Valeria Bruni-Tedeschi, le film a été déprogrammé. Bon, certes, dans 16 salles, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà ça. Il y a une vraie... En tout cas, je dis pas qu'il faut totalement le condamner, mais le mec a été mis en examen et on en parle, et les médias en parlent, et les médias s'emparent de ça. Donc je trouve ça important et je me dis, un des plus gros événements de l'année.
Oui, c'est vrai que ça teinte cette année 2022, puisque la thématique du... Je te laisse parler, Nico, après, mais c'est vrai que la thématique de... bah, des violences faites aux femmes, cette suite de l'affaire Weinstein et de Me Too, c'est devenu un thème central de pas mal de films et une thématique importante de ces dernières années et de 2022 également. Tu as parlé de She Said. Tu allais dire quelque chose, Nico?
Non, il y a Lorraine Bastide récemment, fondatrice du podcast La Poudre et grande féministe, qui a déclaré, alors je ne vais pas la citer mot pour mot, mais qui a dit en fait Me Too a pris en France, mais les réponses à Me Too ne sont pas du tout finalement satisfaisantes. Et en fait, Libération a beaucoup été attaquée pour cet article justement. Et évidemment, il y a la présomption d'innocence, mais on rappelle quand même que Libération avait largement de quoi publier et que la présomption d'innocence n'oblige pas du tout au silence. Et je trouve justement, pour rejoindre ce que dit Esther, c'est que finalement, c'est assez louable ce qu'a fait Libé, c'est-à-dire de publier vraiment des témoignages. Et en effet, il y a quelque chose qui évolue, c'est-à-dire que MeToo fait beaucoup parler et très souvent les réponses à MeToo ne sont pas satisfaisantes. On pense à Roman Polanski au César, et il y a peut-être quelque chose qui est également en train d'évoluer de ce côté-là. En tout cas, j'espère.
Mais quel est le rôle du cinéma sur ce genre de questions-là? J'imagine que là, on a parlé de She Said, il y a eu Promising Young Woman qui était sorti il y a 2 ans, il y a eu Bombshell qui est sorti il y a 3 ans, qui était assez formulé à ce sujet-là. C'est vrai que on la voit dans plusieurs films, mais on parle jamais assez de ce genre de choses. Mais quel est le rôle du cinéma là-dedans?
Comment dire, il est varié. Ouais. Et en l'occurrence, sur un sujet comme ça, c'est toujours un peu compliqué aussi de donner une réponse, une unique réponse. Moi, je pense que de mon point de vue, le cinéma, il est aussi censé représenter des époques, et aussi peut-être une amélioration de ce qu'on voudrait voir dans la société sur ces questions-là en particulier. Donc effectivement, moi j'avoue que je suis un petit peu moins enthousiaste. Il y a certes ces quelques films qui sortent, moi je trouve qu'il en faudrait encore plus. Ouais. Et qu'en l'occurrence, quand on regarde les plannings de sortie, les pitchs, les choses comme ça, on est encore loin, je pense, de là où on devrait être. Mais bon, ça vient petit à petit, c'est aussi je pense qu'on on apprend tous ensemble, on est nombreux, on n'a pas tous la même sensibilité. Mais en l'occurrence, après moi, la question elle se pose aussi en tant que scénariste dans ce que j'écris. J'essaie aussi d'avoir un point de vue sur le monde et en l'occurrence, je pense que c'est ce que font les scénaristes, les réalisateurs, les réalisatrices à travers ce média là et c'est aussi pour donner une espèce de thermomètre d'une époque, un regard, une sensibilité et d'essayer de faire avancer les choses tous ensemble, puisque c'est finalement un média qui permet aussi de communiquer, de partager et de rassembler, quoi.
Et c'est effectivement une des thématiques qu'on retrouve d'année en année, comme tu le disais, peut-être sans doute pas assez, mais qui a émergé ces dernières années, en tout cas de plus en plus. Et toi, c'est cette thématique, Esther, que tu voulais mettre en avant pour et que tu jugeais comme l'événement ciné de 2022. Toi, Nico, tu as un autre événement, on va dire, cinéma qui a semblé, en tout cas lié au cinéma, qui t'a semblé important de pointer. Tu voulais parler de quoi? Alors, quel était ton événement ciné?
Pour moi, mon événement ciné, personnellement, est un petit peu malheureusement un non-événement. C'est la crise que subit la presse cinéma, la presse cinéma particulièrement indépendante en ce moment même. Alors, on va pas se mentir, c'est la crise évidemment pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses qui font que les ventes chutent, que le prix du papier augmente. Et il y a quelques mois, il y a eu, quelques semaines même, il y a eu dans Télérama a été publiée une lettre à l'initiative, si je ne dis pas de bêtises, de Eugénie Philot, donc cofondatrice de Revues et Corrigées. Et en fait, il y a plusieurs publications donc consacrées au cinéma. Je vais essayer de toutes les citer, mais il y a Revues et Corrigées, La 7e Obsession, French Mania, Sorociné, Mad Movies, Les Cahiers du Cinéma et Positif, et j'en oublie, et je suis vraiment désolé, mais en gros, qui tirer la sonnette d'alarme pour dire voilà, on n'arrête pas en fait de baisser la qualité du papier, on n'arrête pas de baisser notre tirage, on est en train littéralement de crever, on n'a pas d'aide ou si peu d'aide du CNC et pourtant c'est des magazines et des revues qui ont en commun le cinéma mais qui ont vraiment pas forcément grand chose en commun. Et en effet, c'est une vraie sonnette d'alarme parce qu'il y en a. Ouais, c'est en train de crever en silence. La presse cinéma, c'est du cinéma, c'est-à-dire que c'est un apprentissage du cinéma, c'est une découverte du cinéma. Ils ne sont pas aidés et malheureusement, cette lettre, elle a été sans réponse, à ma connaissance en tout cas, du CNC.
Oui, il me semble effectivement que le CNC n'a pas répondu.
Il n'y a rien qui a évolué. Donc merci infiniment évidemment à Télérama d'avoir mis en ligne cette lettre. Mais voilà, c'est des revues et je sais qu'on a l'occasion d'en connaître certaines, parfois de bosser pour elles. Mais c'est des revues qui font un travail vraiment admirable et c'est en train de crever malheureusement en silence. Et c'est forcément à déplorer.
parce qu'effectivement, ces revues de cinéma, c'est aussi un éclairage, comme nous, on le fait modestement avec Année Lumière, c'est aussi un éclairage sur les films qu'on voit et les séries qu'on voit, ouais. C'est aussi un éclairage sur le cinéma qui nous habite toute l'année, et c'est aussi des purs moments, des purs pépites et des purs Bien moments sûr. D'interview ultimes. On peut penser, je rappelle, le magazine partenaire d'Année Lumière, Cinématiseur, qui vient de sortir son dernier numéro avec un interview exclusif de Steven Spielberg pour Fablesman. Un magazine avec comme ça.
Et de Damien Chazelle pour Babylone.
Et de Damien Chazelle pour Babylone. Oui. Mais du coup, c'est des interviews comme ça avec, pour le moment, des créateurs qui ont la parole, des scénaristes, des directeurs photos. Cinématiseur le fait très bien.
Que les gens n'achètent plus, on peut le comprendre. Que le prix du papier augmente, mm-hmm. on peut le comprendre pour tout un tas de raisons.
Mais que l'État ne soutienne pas la création.
C'est aberrant.
Et la presse française, c'est
surtout
compliqué.
Quand on voit, et je vais pas me lancer dans ce genre de discours, mais surtout quand on voit d'autres publications qui bénéficient d'aides assez confortables, c'est une injustice total et on va potentiellement droit dans le mur et c'est très triste.
Oui, puis voilà. Ça met en danger le métier de critique
aussi, de bien cinéma. Sûr, absolument.
Qui est essentiel.
Voilà, et qui est essentiel et qui est totalement en péril, quoi. Parce que toutes ces revues, c'est énormément de métiers derrière et je pense qu'en n'aidant pas ces revues, si on nie l'essence même du métier de critique de cinéma. Et tu mets en avant les interviews, c'est des interviews, des entretiens, des analyses analyses qu'on ne va jamais retrouver dans d'autres médias, parce que c'est ce que la presse écrite permet. Et nous, dans le dernier numéro de Revue et Corrigée, on a eu Keanu Reeves.
Effectivement, parler du numérique.
Exactement, la révolution numérique.
Ouais. Est-il aussi gentil que la rumeur le dit ?
Alors, moi, malheureusement, j'étais pas là pour l'interview, mais a priori, ça s'est très bien passé. Ouais.
On était sur deux thématiques assez françaises, véritablement, les Amandiers, la presse française. Toi, Julie, tu vas nous emmener dans une...
Dans une autre échelle,
véritablement.
Ma thématique est moins sombre.
Parce que ton événement ciné 2022, c'était un événement assez majeur, assez massif, assez imposant.
C'est un événement qui concerne un gros acteur du milieu, du cinéma. C'est une news sur Disney, l'empire Disney, sur les studios. Et c'est le départ de Bob Chapek, qui était donc DG de Disney pendant ces 2 ans, de 2020 à 2022, et qui s'en va, qui laisse sa place au très connu Bob Iger, puisqu'il était là bien avant lui. Bob Iger, pour raconter un petit peu son passif, on va dire, avec Disney, il travaillait depuis les années milieu 70 avec ABC. Quand ABC a été racheté par Disney, il est devenu président de la chaîne. Et au-delà de ça, c'est lui qui est passé DG. Il a été DG pendant, on va dire, une vingtaine d'années. Et c'est lui qui est à l'origine du rachat de Pixar, de Lucasfilm, de Marvel, de la Fox.
Ah oui, donc c'est
quelqu'un qui a su, slalomer entre les piquets, comme on dit au sport d'hiver, et qui a su emmener Disney dans un endroit où en fait on les attendait pas forcément à tous les coups, et qui a su sauver aussi la marque Disney en absorbant d'autres choses. Et d'ailleurs sauver les marques qu'elles ont absorbées aussi, parce que ça va dans les deux sens.
En fait, ce que Disney est aujourd'hui, c'est grâce à Bob Iger qui était parti et qui revient après 2 ans.
C'est carrément grâce à Bob Iger. Alors bon, Bob Chapek, pour le coup, il a pris les rênes en 2020. Il s'est chopé le Covid, la fermeture des parcs, la fermeture des cinémas, le lancement. Alors c'était Bob Iger qui avait lancé Disney+, mais c'est Bob Chapek qui l'a vraiment géré. Et le premier move qu'a fait Bob Iger d'ailleurs en arrivant, c'est de dire au revoir au numéro 1 de Bob Chapek, qui était en charge des services de streaming. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bob Iger, en l'occurrence, c'est quelqu'un dont l'approche me rassure un peu plus par rapport à Bob Chapek, puisque il est quand même plus près des talents créatifs. Lui, il pense que c'est vertueux de se rapprocher des créatifs pour certaines prises de décision, telles que des sorties cinéma, par exemple, comme ce qui s'était passé sur les derniers films Pixar qui ne sont pas forcément tous sortis au cinéma, qui sont allés directement sur la plateforme Disney+. Lui, il pense que c'est pas forcément que des décisions de sous, c'est aussi des décisions à prendre avec les créatifs. Ouais. Lui, il connaît très très bien la marque parce qu'il y est depuis des dizaines d'années. Il sait que Disney, la force de Disney, c'est de raconter des histoires, et il veut remettre ça au centre de son mandat de 2 ans, puisqu'il s'est réengagé à revenir uniquement pour 2 ans. Je pense qu'il a très envie de repartir pêcher dans sa maison.
Il a 70 ans quand même, Bob Iger.
Il est un peu vieux. Et dans ce deal, il y a aussi le fait de trouver son remplaçant et de passer le flambeau, justement. Moi, je trouve ça assez rassurant, parce que je trouve que les décisions qu'avait prises Bob Chapek ces dernières années, alors Il a eu aussi plusieurs casseroles aussi. À côté de lui. Plusieurs casseroles.
Don't Say Gay, des choses comme ça.
Exactement, où il appartenait, enfin voilà, plus ou moins à des gens avec qui on n'a pas trop envie d'être. Mais ça, c'est personnel. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un petit goût. Allez, je vais faire un pirate des Caraïbes move, un petit mouvement de gouvernail.
De gouvernail, ouais.
Et je suis très curieuse de cette nouvelle impulsion et de voir ce que ça va donner pour Disney concrètement sur les nouveaux films, les sorties ciné, pas ciné, Disney+, pas Disney+, comment il va se réemparer de tout ça dans tout ce que ça comporte, parce que Disney, c'est, comme on l'a dit, beaucoup, beaucoup de choses.
C'est le plus gros studio de cinéma actuel, je pense, hein, en tout cas en termes d'IP et de thunes générées.
Et je ne l'ai pas dit, ils ont perdu beaucoup d'argent aussi ces deux dernières années, et même ce dernier semestre, les résultats étaient vraiment pas terribles, donc ils l'ont vraiment appelé à la rouscousse, hein, en mode « reviens !»
Écoute, Bob Iger, qui vient à la rescousse de Disney, le plus grand studio du monde.
Ça reste un DG Disney, hein, faut pas non, c'est pas enfin c'est pas grandi non plus. Hein,
mais... Et après tu sais, il revient pour 2 ans, c'est ça?
Ouais, juste pour 2 ans.
Ouais. Non mais la vraie question, c'est que voilà, à part désigner son successeur, est-ce que 2 ans on va sentir une impulsion? Enfin voilà,
pour 2 ans,
c'est
des trucs.
Non, ce que je veux dire, c'est que 2 ans c'est pas grand chose.
Je pense qu'il a décidé de bosser, puisque dès les premiers jours où ça a été annoncé, il a pris des décisions vraiment très très importantes qui donnent quand même des signaux clairs.
Ça rejoint mon événement 2022 qui est du coup corrélé au tien, Julie, qui était qu'effectivement en 2022, tu l'as dit un petit peu, on a eu le retour en salle d'une marque qui était absente depuis des années, depuis début 2020 d'ailleurs, puisque effectivement le Pixar est revenu avec un film en salle avec Buzz l'éclair au cinéma. Et ça faisait 2 ans. Il y avait eu En Avant qui était sorti vite fait en mars, et à cause du Covid, ça avait duré 2 semaines, ça avait été vite fait retiré. Il y a eu Luca qui est sorti sur Disney+, il y a eu Soul qui est sorti sur Disney+. Et en mars, il y avait eu Alerte Rouge, qui est donc la musique que vous avez entendue au début du thème, et qui était du coup un film avec une jeune pré-ado qui change en panda rouge géant dès qu'elle est énervée. Et du coup, c'était un film pour moi qui est l'un des meilleurs films de l'année, parce que je trouve ça vraiment formidable.
C'était super.
Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, c'est vraiment très très cool. Et ce film-là, contre toute attente, Disney a décidé de le sortir non pas au cinéma, c'était prévu au cinéma, et finalement ils ont décidé de le sortir, Bob Chapek a décidé de le sortir sur Disney+. Tristement, comme tu le dis, les créatifs qui ont bossé dessus 5 ans, ils ont vu leur film arriver sur Disney+. Et quand Buzz l'éclair est sorti au cinéma en juin, là, il a fait 250 millions de dollars au box-office. C'est-à-dire que ça a été un carnage, ça a été un flop total pour 200 millions de budget. Et en fait, on peut se dire, en 2022, il y a 4 ans, il y a 5 ans, les Pixar, c'était Coco, c'était Les Indestructibles 2, c'était Le Monde de Dory, c'était des 1 milliard par 1 milliard au box-office. 5 ans après... Qu'est-ce qui reste de la marque Pixar? Est-ce que c'est la faute de Disney? Est-ce que c'est la faute du Covid? Évidemment, ça n'a épargné personne. Mais je trouve que là, en 2022, on est peut-être arrivé à un turning point qui est que Pixar, il y a 5 ans, était encore le numéro 1 de l'animation, du film d'animation en 3D en tout cas. Et maintenant, il n'est plus que l'ombre de soi-même.
Moi, je suis très curieuse de voir Elemental, le prochain, qui a l'air quand même d'être 100% un produit Pixar, dans tout ce que ça comporte. Moi, j'avoue que Buzz l'éclair, ça a été une espèce de déception aussi. Parce que je retrouvais pas ce que j'aimais chez Pixar dans le film.
C'était nul.
Mais...
C'était nul.
Mais Alerte Rouge était plus un film Pixar dans l'esprit.
Alerte Rouge était bien sûr. Mais
c'est bizarre que ce soit arrivé.
Ce que je dis par là, c'est que moi, je demande à voir comment ça va se passer pour Elemental, justement. Je suis assez curieuse de voir. Ça a l'air très familial. Ça a l'air assez créatif, assez fou aussi. Donc, pourquoi pas? Mais vu comment ça se profile au-delà de Pixar, même pour Disney avec Avalonia, qui là n'a pas des chiffres probants aux États-Unis, je suis un peu inquiète.
Après, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en effet, Disney a racheté énormément, énormément, énormément de maisons, c'est-à-dire Pixar, Marvel, Star Wars et tout. Du coup, tout est dilué, c'est-à-dire que la marque Disney, moi je la trouve un petit peu diluée, on ne sait plus trop ce qui est Disney et ce qui est Marvel ou Star Wars ou Pixar. Et de la même façon, quand un Pixar sort... Il n'y a plus vraiment d'événements. Enfin, il faut se souvenir que le Pixar, c'était le Pixar de Noël. Enfin, en tout cas, c'était vraiment la sortie. Là, après, j'ajoute à ça que moi, je pense sincèrement que Buzz l'éclair est un film surpourri, qui n'a aucune raison d'exister. C'est le nouveau Cars 2 de Pixar, qui n'a pas lieu d'être.
Et même Cars 2 a fait le double au box-office, tu vois.
Ouais, non, mais et après, autre époque, quand même.
Bien sûr.
Mais voilà, moi, je trouve que, pour revenir à la stratégie de Bob Iger, elle est logique, elle est dans son époque et elle fonctionne en effet, mais ça a eu le désavantage de diluer un petit peu toutes les marques.
Tu veux dire
De Iger de racheter tout le monde, voilà. Ouais. Ça a du coup l'impact de diluer tout ça, c'est-à-dire que.
Et donc d'abîmer les marques.
Ouais, un petit peu, ouais, je trouve. Franchement, un petit peu, je trouve. Bah, Pixar, de toute évidence, on est en train d'en parler. Marvel, bon, bah, tout va bien pour eux, mais du coup, ça n'arrête pas. Les séries s'enchaînent et on va pas se mentir. Bon, bah, on peut continuer à regarder, mais c'est devenu un petit peu poussif. Ouais, il y a moins le côté événementiel, en tout cas, je trouve. Et puis, bah, Star Wars, n'en parlons pas. Hein.
Cette marque Pixar qu'on aime tant, qu'on aime tous, qui aujourd'hui est bien,
c'est quoi ton
bien
Pixar
mal en
préféré
pire. Je pense que c'est le monde de Nemo.
Ah ouais, ok.
Que je trouve d'accord. formidable.
J'aurais parié sur Wall-E pour toi, je sais pas pourquoi. Je t'ai associé à Wall-E.
C'est quoi toi, le tien?
Trois quarts d'heure.
Moi j'arrive pas à choisir. Moi vraiment je peux pas. C'est vice versa.
Le monde de Nemo aussi.
Ah ouais, ok.
Un buddy movie entre une amnésique et un père à la recherche.
Moi j'ai un top 3. Vice versa, Monstres et compagnie et. Ah putain, et Wall-E.
Ah bah voilà. Ouais. Non mais tu vois, genre, on peut parler de Pixar tout le temps, mais c'est vrai qu'un film comme Wall-E. Tu verrais ça aujourd'hui, c'est improbable d'avoir trois quarts d'heure de silence.
Wall-E aujourd'hui,
je suis pas sûr que ça marcherait, tu vois. En fait, t'avais le côté proposition folle de Pixar qui amenait les gens aussi en salle. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours assez atypique. Enfin, voilà, on a fait un peu le tour des événements ciné. On a parlé des amendiers et de cette question, effectivement, des violences, de l'harcèlement, de ce sous-genre d'un cinéma MeToo qui peut-être arrive, qui grandit d'année en année. Pas assez vite, mais il est là. On a parlé de la presse ciné française qui est laissée de côté par l'État, et malheureusement, parce qu'elle est pourtant
indispensable.
Elle est indispensable. On a parlé du changement de cap et du changement de tête à la tête des studios Disney et de l'état de la marque Pixar. Voilà pour le tour des événements ciné, et on s'en va sans plus tarder vers notre petit bilan de l'année 2022 avec nos films préférés, nos surprises, bref, tout le reste. C'est parti. Vous l'avez reconnu, cette musique, ce thème emblématique, cette guitare électrique endiablée, cette musique, c'est celle de Top Gun Maverick, musique d'Hans Zimmer, de Lorne Balfe et de Harold Faltermeyer. Top Gun Maverick est forcément dans les tops, si vous regardez un peu autour de vous, cinéphiles, il est forcément quelque part dans les tops de fin d'année et du bilan cinéma de 2022 de beaucoup de gens. Et dans ce thème d'année-lumière, on va parler de ça, on va parler de nos films préférés de l'année, de nos pépites méconnues, de nos plus belles surprises de cinéma et de nos plus grandes déceptions aussi. Alors allons crescendo, quelle est votre plus grande déception cinéma de l'année 2022? On va commencer par toi, Nicolas.
Oui, bah du coup ça va aller vite. J'ai aucune immense déception, vraiment. J'ai trouvé que c'était une super année. Il n'y a aucun film où vraiment j'attendais mille choses et où je suis ressorti tout raplapla. Mais du coup, je vais parler du film qui m'a rendu le plus mouais. Tu vois, vraiment, où je m'en cogne, mais je m'en surcogne. Et c'est le premier film de Sandrine Kiberlin, pardon, en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est avec Rebecca Marder. Ça n'a aucun semblant de début d'intérêt. Et vraiment, j'adore Kiberlin, j'adore Marder et tout.
Ça raconte quoi,
voilà. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, été 1942, à Paris. Elle poursuit ses études, jeune française juive. Elle est passionnée de théâtre. Je te lis Wikipédia. Hein. Passionnée de théâtre et ambitionne de devenir comédienne. Elle répète l'épreuve de Rivaux, et puis bah évidemment la guerre s'en empare, enfin voilà, la guerre prend le pas sur la ville et tout.
Non mais je l'ai pas détesté, donc
moi non plus je l'ai pas détesté, mais vraiment je l'ai regardé en me disant j'aime bien Kiberlin, j'aime
ça
bien Marda et tout, et j'ai éteint la télé en disant allez ok allons se coucher, vraiment aucun j'ai trouvé. Et alors que c'est un beau sujet, alors que c'est un beau casting, il y a Anthony Bajon que j'adore, ouais. Je suis un immense fan d'Anthony Bajon.
T'en parles bien pour quelqu'un qui a été mais
Oui, mais alors je vais arrêter d'en parler parce qu'il y a un autre film, mais
on va parler plus tard. Julie, toi, tu voulais, est-ce que tu avais une déception de l'année 2022?
J'ai une déception, mais qui est assez récente puisqu'elle date d'avant-hier. Et je l'ai vue exprès parce que je me doutais que j'allais être déçue. Bon, alors c'est marrant parce que ça rejoint un peu le thème, mais je regarde autre chose que Disney, hein, il faut le savoir. Mais j'avais beaucoup d'attentes pour la suite d'Il était une fois, Enchanted, que j'avais beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un film au très bon concept, très bien foutu et très rafraîchissant, le premier. Mmh. Et j'attendais avec une impatience ce second volet. Il était une fois deux, Disenchanted. Et Disenchanted n'est pas que le titre de ce film, c'est également la substance. C'est 100% désenchanté. Et je ne parle pas de Mylène Farmer. C'est vraiment... Bah, c'est le téléfilm de trop, quoi. Enfin, déjà, ça ressemble vraiment à un téléfilm. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour Once Upon a Time, la série, mais fallait peut-être pas mettre ça dans les mains des scénaristes de Once Upon a Time si tu voulais pas que ça ressemble à la saison 8 d'Once Upon a Time.
Et même Amy Adams.
Oui, j'ai c'est le film avec Amy Adams. Ouais, pardon, je suis pas sûr.
Ouais. Et en gros, moi, j'adore les comédies musicales. J'aime beaucoup cette espèce de vent de fraîcheur qui m'emporte dans la fantasy. Voilà. Et là, j'étais vraiment affligée, quoi. C'est parce que j'avais de grosses attentes aussi, hein, je pense, mais à chaque plan, à chaque chanson, je me disais, elle est pas bien cette chanson, on la retient pas, je suis si déçue. Et en fait, t'as vraiment l'impression que tout le monde vient chercher son chèque. En fait, alors il y a Maya Rudolph dedans, il y a des tentatives quand même de quelques envolées, mais en fait ça ne va pas du tout scénaristiquement, ça ne va pas au niveau de l'image, ça ne va pas au niveau des chansons, des chorégraphies, ça ne va pas. J'étais extrêmement déçue, donc je pense que je reverrai avec plaisir le premier en me disant que finalement c'est bien que cette histoire s'arrête là.
Et donc c'est sur Disney+.
Et c'est sûr, si vous voulez ne pas le regarder, c'est sur Disney+.
Mais le 1 est vraiment bien, je ne l'ai jamais vu, c'est vraiment
bien. Moi je trouve que c'est un très bon film qui est passé beaucoup pour un truc un peu de princesse, gnangnang, quand il est sorti, alors qu'il a un vrai bon concept, il respecte très bien les règles de l'univers, et ça joue, il y a quand même un peu de second degré sur ce qu'est Disney, sur ce que sont les princesses.
C'est une rom-com musicale.
C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment, le pitch de toute façon est simple, c'est l'histoire d'une princesse de dessin animé qui se retrouve projetée à New York, donc dans la vraie vie.
Trop bien.
Et moi j'aime beaucoup les
Patrick Dempsey.
Tout à fait, j'aime beaucoup les films de passage d'un univers à l'autre, je trouve que c'est, que ce soit La Rose pourpre du Caire ou d'autres films qui l'ont fait, Last Action Hero étant vraiment mon préféré, mais il y a une petite vibe comme ça aussi, je trouve, de passage de la réalité à la fiction et de ce que la fiction apporte à la réalité, et comment on manque de fantaisie dans nos quotidiens et comment le cinéma réenchante en fait le quotidien en général. Enfin, moi je l'ai vu vraiment comme ça en termes d'écriture. Et ça m'a beaucoup plu, mais ne regardez pas le 2.
Tu vends super bien le 1 en tout cas, parce que vraiment j'avais une image un peu ringarde. Mais
après, faut pas y aller en pensant que tu vas avoir un Scorsese, mais c'est vraiment très. Moi je trouve ça réussi, quoi.
Bah, revoyez le 1 et voyez pas le 2, qui est donc la grande déception de l'année 2022 pour Julie. Ouais. Et toi, Esther, est-ce que tu avais une déception cette année?
Mais moi j'ai plein de déceptions, contrairement à toi, Nico. J'avais envie de parler de Nope, de Jordan Peele, j'avais envie de parler de Don't Worry Darling, d'Olivia Wilde, d'immenses déceptions. Et finalement, j'ai décidé de parler de The Northman parce que c'était sans doute le film que j'attendais le plus. Oui. Voilà, que j'ai mis des mois à aller voir, de Robert Eggers, donc troisième long métrage de Robert Eggers. On se rappelle que vraiment il avait ébloui tout le monde avec The Witch en 2015.
Formidable.
Il avait commencé un peu à me décevoir avec The Lighthouse, où là je me dis, ok, il y a un univers visuel, il y a une proposition artistique, le noir et blanc, le huis clos sur une petite île dans un phare avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, super duo d'acteurs. Mais c'était pas fou au final. Je sais pas si vous l'avez vu.
Effectivement, c'était la promesse était belle, mais
casting de fou.
Mais le résultat était un peu.
Ouais,
un
Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy qui retrouve après The Witch, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk quand même, Claes Bang. Enfin voilà, ça se passe au Xe siècle en Islande, l'univers des Vikings hyper violent.
Après, la direction artistique est folle.
Bah non, parce que justement, moi je trouve que sa patte est en train d'être annihilé par les studios américains, par Hollywood.
Je rappelle que c'est un budget de 100 millions de dollars, donc c'est un énorme film par rapport à ce qu'il fait lui, quoi.
Ouais, mais c'était mieux quand c'était moins de budget comme The Witch. Là, il a trop de moyens et je me rappelle pas de plan en particulier. Je trouve que c'est décevant.
Tu l'as oublié, quoi.
Non, mais en fait, on est en train d'assister à la disparition de l'univers visuel, vois, de Robert Eggers. En tout cas, avec ce film, je trouve que ça y est, il s'est plongé dans le bain des gros studios américains et du coup, il nous a proposé il propose un film, mais on pourrait en voir, enfin ça pourrait être réalisé par quelqu'un d'autre, ce serait presque pareil quoi.
Et donc son Nosferatu, t'as très peur de son Nosferatu qui arrive?
Non, parce que là je pense que c'est plus personnel. D'accord. Comme projet, donc d'accord, ça je l'attends quand même, mais peut-être encore une déception, mais j'irai. Dans tous les cas,
j'irai aussi, nous serons dans la salle tous les deux. Nico, tu n'es pas d'accord, tu as aimé The Northman?
Alors moi non, mais alors moi je suis soumis à Robert Eggers, c'est-à-dire que à peu près chacun des plans qu'il filme, je m'incline et j'adore. J'ai vu 3 fois The Northman, j'ai adoré The Northman.
Un tout petit peu obsessionnel,
je trouve
toi.
Que je suis globalement très obsessionnel, vraiment. Mais je suis un immense fan. Je préfère The Lighthouse à The Witch, donc déjà voilà.
Oh là là.
The Lighthouse me rend ouf. Et non, j'ai trouvé que The Northman. Alors déjà, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que son talent ne s'est pas dilué justement dans le cirque hollywoodien. voilà. Après, le film a été une déception, en tout cas au box-office. C'est-à-dire qu'on espérait tous qu'un film extrêmement mature, sombre, avec un gros budget. C'était pas 100 millions. Je crois que c'était plutôt 70. Mais quand même, tous ses films précédents coûtaient 10 millions. Voilà. Ça a été un petit peu une déception de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment aimé The Northman, sans pour autant clamer que c'est son meilleur ou que c'est le film de l'année, mais voilà, ça a pas du tout été une déception.
Et puis cette ambiance du Moyen Âge, je trouve qu'on l'a déjà vue et revue en fait.
Ouais.
Ouais.
Mais pas comme ça.
Peut-être qu'il a voulu faire un produit de consommation qui plaît à tout le monde, et justement en fait, il est meilleur quand il fait des choses plus petites, tu vois. Ouais,
écoutez, essayez de vous faire votre avis avec l'avis d'Esther et l'avis de Nico sur The Northman. Moi, ma déception de l'année ciné 2022. Elle vient d'une plateforme, elle vient de Netflix, puisque c'est un film qui est sorti le 16 septembre dernier sur Netflix, et qui s'appelle Blonde, d'Andrew Dominik, consacré à l'histoire, le fantasme, la réalité, la persona de Marilyn Monroe. Un film réalisé pourtant par donc Andrew Dominik, l'homme derrière l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, et de Kogan. Donc des films soit sublimes, soit intéressants, soit passionnants. Et là, il livre sa vision de Marilyn Monroe, icône également tout aussi passionnante, double, triple, avec les gens qui projettent sur elle, ce qu'elle est vraiment, ce qu'on ne saura jamais. Bref, un sujet passionnant. Elle est incarnée par Ana de Armas. Et ça donne un film d'une vulgarité abyssale.
Ah ouais.
Je trouve ce film là hideux. Je sais pas ce qu'il veut raconter. Je ne sais pas.
Attends, hideux dans son propos ou dans son image?
Je trouve que dans sa direction artistique et dans ses idées de mise en scène, Andrew Dominik propose quelque chose. C'est normal, c'est un excellent réalisateur. Mais je ne sais pas ce qu'il veut raconter, sachant que effectivement, dans Blonde, c'est une histoire qui est inventée. C'est une adaptation d'un livre et donc de faits sur Marilyn Monroe qui n'ont jamais vraiment existé.
C'est pas une biographie. Ouais.
C'est pas une biographie, mais du coup, ça fait un portrait de Marilyn Monroe qui ne sert pas l'icône, ne sert pas l'actrice, ne sert pas grand-chose. J'étais extrêmement déçu, alors que pourtant le réalisateur et le sujet étaient intéressés.
Alors, il y a des séquences qui évidemment sont largement problématiques. Moi, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas et surtout qu'on trouve que ça dessert Marilyn Monroe. Ça, on est bien d'accord, mais est-ce que c'est vraiment un film sur Marilyn Monroe? Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension totale? Et il y avait déjà un petit peu la même, d'ailleurs, autour du bouquin. Ce n'est pas arrivé à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est finalement un prétexte un petit peu pour raconter, notre obsession de l'époque et notre obsession particulièrement moderne autour de cette icône qui continue de fasciner et où, en fait, on a tous un petit peu envie de combler les trous et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Il y a peut-être un petit problème de plateforme aussi. Hein. C'est que le film se retrouve balancé sur une plateforme. Mmh. Mais en fait, si tu n'es pas effectivement ou dans le milieu ou intéressé un petit peu par le film, ben tu n'as pas accès à ces interviews, et où en fait le film est aussi présenté
tel quel
avec un espèce de, enfin il n'y a pas vraiment de warning qui te dit attention, enfin moi je l'ai pas vu du coup.
Attention, vous allez prendre 2h30 de Monroe qui va se faire pendant 2h30 qui s'en prend plein la tronche à chaque séquence, en fait.
Mais du coup, c'est peut-être un problème aussi de positionnement, parce que je pense qu'en réalité, on va pas se mentir, Netflix, ça doit les arranger un petit peu que random parents, je pense à mes parents par exemple, cliquent dessus en se disant ah bah tiens, c'est un film sur Marilyn Monroe, sans aller forcément déconstruire aussi le truc. Et moi, je trouve ça problématique quand, en fait, c'est grâce aux interviews du réalisateur que tu as l'information complémentaire. Le film devrait se suffire à lui-même, et en fait, pour le coup, je ne l'ai pas vu encore une fois, mais je trouve ça problématique que tu aies besoin de ce complément-là pour comprendre ce qu'il a voulu raconter. C'est que ça doit pas être 100% réussi, j'imagine.
Et je trouve que si la proposition est intéressante et si l'angle est en tout cas intéressant sur le papier, je trouve que 2h30 d'Ana de Armas qui s'en prend plein la tronche en tant que Marilyn Monroe, et parfois dans des séquences qui sont vraiment problématiques.
Je défends pas toutes
les séquences.
Notamment celle-là
dont tu penses. Je vois, au bout d'un moment, j'étais là, genre je ne vois pas l'intérêt.
Laissez-moi tranquille.
Non, mais la suite des séquences de Ana de Armas qui s'en prend plein la tronche encore et encore, j'étais là, genre mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste, tu trouves des variations pour la faire souffrir, et c'est censé sortir quelque chose.
Et c'était l'année Monroe, parce que c'était une année Monroe, parce que c'est les 60 ans de sa mort. Et je pense que ceux qui sont intéressés par cette figure, s'ils veulent voir quelque chose de plus intéressant, avec un vrai propos, il faut voir Devenir Marilyn, un documentaire de Michel Dominici qui a été diffusé sur Arte à la fin de l'année, et où elle se base sur le journal de Marilyn. Elle redonne la parole à Marilyn, et justement comment elle est devenue cette icône de cinéma. Donc c'est les tout débuts de Marilyn Monroe, et c'est génial.
Devenir Marilyn.
Voilà, en replay sur Arte et YouTube. Et
Merci pour ça, Esther. On va continuer notre thématique et on va accélérer un petit peu avec maintenant notre plus belle surprise de 2022. Julie, c'était quoi ta plus belle surprise ciné de 2022?
Plus belle surprise cette année pour moi, ça a été Les Enfants des Autres.
Ok.
Qui est un film avec Virginie Efira qui m'a vraiment bouleversée du début à la fin. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais voir puisque je n'avais presque rien vu, pas de bande-annonce, j'avais juste vu l'affiche.
C'est bien ça quand tu vas voir des films sans savoir trop.
Alors moi,
trop,
je fais
top,
ça
hein.
De plus en plus. J'avoue que je me préserve de tout visuel. Alors visuel, les affiches, c'est toujours un peu compliqué, mais de toute bande-annonce, de tout résumé aussi. J'essaie au maximum de faire des one-shots comme ça quand je vais au cinéma. C'est une super expérience en vrai, parce que ça te permet d'être vraiment neutre, mais aussi des avis que tu as vu passer. Donc en l'occurrence, j'y suis allée sans savoir ce que ça racontait. Et ça m'a bouleversé dans les thématiques, dans le female gaze qui dégage du film. Ça parle de parentalité, bien sûr. Le film s'appelle Les Enfants des Autres, donc je vais pas vous faire un dessin. Je vous laisserai découvrir vous aussi si vous ne savez pas exactement quel est le résumé de ce film. Mais moi, ça m'a transporté, et j'ai trouvé que c'était une des premières fois où j'avais l'impression qu'on me parlait réellement au cinéma, et ça m'a fait me sentir super bien dans la salle, même si j'étais très émue, je pleurais beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment très efficace dans la mise en scène, mais vraiment beaucoup d'émotions à travers les personnages, le scénario, la façon dont l'histoire est racontée, ce qu'elle raconte, le sujet. Donc c'est ça ma surprise, enfin ma belle surprise. Je savais pas du tout ce que j'allais voir.
La belle surprise, Les Enfants des Autres, formidable, merci pour ça. Esther, toi, c'était quoi ta belle surprise de 2022?
Eh ben moi aussi j'en ai eu plein, et finalement j'ai choisi X de Ty West, donc un slasher dans l'univers du porno. Ça se passe en 1979, une petite équipe de tournage loue, ils sont 4 ou 5, une petite maison en plein bayou texan pour y tourner un film, X. Et cette maison jouxte la maison des propriétaires, un couple de personnes âgées, un petit peu bizarre, voilà. Alors Shyamalan, il nous avait déjà effrayé avec des personnes âgées dans The Visit, et on a vu tellement de petites filles effrayantes que ça fait du bien de voir des personnes âgées effrayantes. Et là Ty West, il va encore plus loin, parce qu'il propose une vieille dame obsédée sexuellement par par Maxine, l'actrice, la révélation un peu de ce film porno,
Mia Goth.
Donc c'est un film très efficace, mais aussi qui marche très bien. C'est une comédie horrifique, mais c'est aussi un film hyper référencé, parce que Ty West est hyper cinéphile. Donc il y a plein de références à Shining, à Massacre à la tronçonneuse, à Psychose, beaucoup, qui revient dans ce film. Et c'est aussi un hommage au cinéma et aux techniques de cinéma. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, je l'ai vu deux fois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu la deuxième fois, pas du tout la première, que j'ai regardé en pur divertissement. Ouais. La deuxième fois, j'ai vu tous ces hommages où il va faire des plans en drone, il va filmer en pellicule, il va y avoir de la télévision, il va y avoir des ombres chinoises, il va y avoir quelqu'un qui regarde une scène par un trou. Enfin, c'est vraiment comme si il remontait dans le temps et il nous faisait une espèce d'histoire des techniques du cinéma dans son film. Il s'amuse aussi vachement avec le montage, il y a beaucoup de montages alternés. Enfin bon, c'est un slasher efficace, mais à la mise en scène extrêmement léchée, avec un casting de ouf. Il y a quand même Kit Cudi, que je découvre en acteur, qui est génial. Brittany Snow, qui joue une actrice porno. Et la révélation, Mia Goth, qui joue deux personnages pour le prix d'un et qui est vraiment incroyable dans ce film.
Il y a Jenna Ortega aussi, mercredi.
Oui, tout à fait. C'est vrai, j'avais oublié. Et donc c'est une trilogie, les deux suites ont déjà été tournées, Pearl est déjà sortie aux États-Unis et je crois que ça a cartonné, et que j'ai toujours pas vu, et après il y aura le troisième qui s'appelle X au carré.
Et c'est encore à 24.
Et voilà.
Pearl, c'est un préquel de X, c'est ça?
Ouais.
Et il vaut, enfin du coup toi tu les as vus dans ce sens forcément, mais je me demande s'il vaut mieux voir le préquel Enfin, ils vont pas mieux forcément. Le voir dans le sens où ils ont été faits, on est d'accord. Très bien.
Et ce que tu disais, Esther, c'est très juste. C'est-à-dire que dans The Visit, c'était déjà des vieux qui nous terrifiaient. Et c'est le cas, justement, dans X. Et dans X, Ty West, en effet, tout au long du film, dissémine des techniques de cinéma. Et Shyamalan, dans The Visit, disséminait des peurs ancestrales, c'est-à-dire la peur du monstre sous le lit, la peur du fantôme sous les draps et tout. Ça repose un petit peu sur les mêmes mécanismes. Donc voilà, non, en effet, X, c'est génial.
La belle surprise de 2022, Nico, tu avais quoi comme...
Alors, ça comme s'appelle la grande triple alliance internationale de l'Est. C'est réalisé par Guillaume Marietta et Nicolas Drolk. C'est un documentaire qui raconte donc l'histoire de la grande triple alliance internationale de l'Est. C'était un collectif artistique actif à peu près au début des années 2000 du côté de Metz, Strasbourg, Bruxelles et même Rome. Et en fait, c'est un documentaire qui a été projeté dans un festival qui a lieu tous les ans à Bordeaux et qui s'appelle Musical Écran, donc un festival de documentaires autour de la musique. C'est l'histoire d'une communauté... totalement improvisé de losers qui vraiment avaient le désir de ne pas faire carrière. Ils vivaient dans des squats, ils faisaient n'importe quoi. Quelques noms d'artistes de ce collectif, The John Merricks ou tout simplement Bière. C'est le nom de l'artiste.
Bière,
voilà, exactement. Autant vous dire qu'il n'y avait vraiment aucun plan de carrière. C'est un documentaire assez difficile à regarder parce que toutes les archives sont sales, rien n'est remasterisé, tout est un petit peu... C'est à la fois magnifique et en même temps, il y a un sentiment de vrai lose. C'est-à-dire que parfois, on est un petit peu mal à l'aise devant le fait que ces mecs, et ces femmes d'ailleurs, soient d'une intransigeance totale par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'art, alors qu'eux ne sont arrivés à rien. Mais il y avait un côté... Il y avait une vraie beauté du geste et c'est ce que raconte ce documentaire et ça a été vraiment vraiment un choc. Donc,
tu nous rappelles le titre
si j'y arrive. La grande triple alliance internationale de l'Est.
Bah écoute, merci beaucoup.
Précise que c'est Rebecca Zlotowski qui a quand même réalisé le film dont j'ai parlé parce que je ne l'ai même pas dit. Donc pardon, j'ai quand même de vous rendre à Rebecca.
À Rebecca. Et pour conclure ce thème sur notre bilan de l'année 2022, effectivement, nous devions en parler. Notre film préféré de l'année 2022, on a eu un petit avant-goût avec l'extrait musical qui a lancé ce thème. J'ai envie de commencer par toi, Nico. Quel était ton film préféré 2022? Tout le monde le sait, mais vas-y.
C'est Top Gun Maverick qui m'a rendu fou. Mais fou. Alors, je suis un immense fan de Top Gun, je suis un immense fan de Tom Cruise. Tom Cruise est un artiste qui me fascine pour tout un tas de raisons, pour la façon qu'il a de défier le temps, pour la façon qu'il a de mettre à l'honneur le cinéma, le vrai cinéma d'action avec tout ce que vous savez déjà, évidemment, sur Tom Cruise. Il y avait... mille raisons pour que ce Top Gun Maverick soit la pire idée possible.
Oui, c'est vraiment, vrai que sur le papier, c'est pas...
Sur le papier, rien ne marchait. Oui. Tony Scott n'est plus là. Il prend Joseph Kosinski pour réaliser. Très bien, Joseph Kosinski, il avait fait Oblivion, mais Joseph Kosinski, il est comme Christopher McQuarrie. Il est un petit peu au service de Tom Cruise. Mmh. D'ailleurs, si tu demandes au grand public, je pense que la plupart ne connaissent pas le réalisateur de Top Gun Maverick. Pour eux, c'est Tom Cruise. C'est un film qui m'a... C'est un film exaltant. C'est-à-dire que c'est un film qui est à la fois un remake et en même temps un miroir du premier Top Gun. C'est un film qui réussit absolument tout ce qu'il devait complètement foirer. Je vais pas dévoiler, pour celles et ceux qui l'ont pas vu, la scène avec Val Kilmer. On sait dans quel état aujourd'hui. Enfin voilà, on sait que Val Kilmer il souffre, on sait qu'il est malade. On nous dit que Val Kilmer est là. Ça aurait dû être nul. C'est l'une des scènes les plus chialantes de cette année ciné. Il y a des moments de pure beauté cinématographique. Évidemment que Tom Cruise, quand on le voit à l'écran, on se dit « Mais putain, mais comment il peut encore faire ça ?» Enfin voilà, c'est fun, c'est drôle, c'est émouvant. C'est un authentique blockbuster, à la fois éminemment moderne et en même temps à l'ancienne. Et en même temps, quand on pense un petit peu au... Quand on arrive au moment où il faut faire son top cinéma, bah moi je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais pas forcément citer Top Gun Maverick. T'as souvent un peu envie de faire le malin, de pas citer le blockbuster de l'année. Enfin voilà, on se l'avoue pas forcément et tout. Et en fait, si je suis tout à fait honnête avec moi-même et avec vous maintenant, le film qui m'a le plus fait chialer, le film qui m'a le plus fait rire, le film qui m'a le plus obsédé aussi, j'ai maté la bande-annonce non-stop. C'est Top Gun Maverick.
Et tu l'as vu 10 fois.
Et je l'ai vu 10 fois, oui, absolument.
Et Nico est maintenant enfermé.
Et maintenant, il est maintenant en réclusion.
On l'a laissé sortir pour l'émission.
On va laisser sortir, mais dans ma petite chambre, avec ma camisole, j'ai une télé, je te laisse deviner le DVD.
Et Julie, il me semble que... Alors non, du coup, je vais pas anticiper ton film de l'année, mais c'est quoi ton film préféré de l'année 2022, si tu ne pouvais en choisir qu'un?
Non, mais c'est hyper compliqué parce que à la base, quand j'avais pas vu tes réponses, j'ai dit bon, je pense que c'est Top Gun 2. Ouais. Après, j'ai vu tes carrément, je fais bon, bah, je vais lui laisser parler Top Gun 2 parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il va venir chez moi pour me tuer si je ne le laisse pas faire
Nico
ça.
Nico a cet effet comme ça. De, tu
donc,
sens son
déjà que Jurassic Park est un de mes films préférés, je me méfiais avant de le rencontrer, tu vois.
Je suis sincèrement désolé, en fait, je pensais pas faire.
Après, vous devez avoir le même avis sur Jurassic World 3, en gros.
Je l'ai pas vu, moi, je me suis épargné ça. Enfin, voilà. Non, il y avait plein de films que, en fait, je n'arrivais pas à choisir. J'avais plein de films qui me tournaient dans la tête. Il y avait Falcon Lake que j'ai beaucoup aimé. Il y avait Top Gun 2, il y avait Ego, il y avait Layla et ses frères, il y avait Elvis, il y avait Bros. Je suis en train de détourner l'exercice.
Mais c'est bien.
Et en même temps, je me dis qu'il y avait surtout le film que je voulais citer et dont je t'ai parlé n'est pas sorti. Je l'ai vu cette année, mais il sortira, c'est After Sun, et il ne sortira que l'année prochaine. Donc ça sera une reco.
C'est le jeu des.
Pour l'année prochaine. Mais du coup, je m'arrête et je fusionne ma pépite méconnue et mon film préféré. Comme ça, au moins, j'y vais. Ouais. Et c'est un film documentaire qui s'appelle Et j'aime à la fureur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Pas du tout, j'avoue.
Il était à Cannes dans une sélection parallèle, entre guillemets. Ouais. C'est pour ça qu'on en a moins parlé. Et c'est un documentaire que j'ai trouvé incroyable, réalisé par André Bonzel, qui était le co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous. Et le parti pris de ce film, c'est que André Bonzel nous raconte son histoire à travers des films de famille qui lui appartiennent, mais également à travers sa collection de films Super 8 amateurs qu'il a accumulé pendant toute sa vie. Et en gros, dès qu'il lui manque des morceaux de l'histoire de sa famille qu'il essaie de nous raconter, il met des vidéos de gens amateurs qu'il a récupérés dans sa collection. C'est incroyable. Au-delà d'être un film qui raconte son histoire familiale, son histoire à lui, ça parle beaucoup de cinéma. C'est très intéressant de voir comment les choses se tissent, justement.
C'est de l'archive, beaucoup.
C'est un gros travail de montage. On aperçoit Benoît Poelvoorde, bien sûr. On aperçoit aussi Rémi Bellevaux. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que ce film avait un peu changé quelque chose en moi. Enfin, parfois, il y a des films qu'on va voir comme ça et on s'y attend pas vraiment. Et moi, je suis ressortie bouleversée en ayant l'impression d'avoir vu vraiment une déclaration d'amour au cinéma hyper sensible et sincère de la part de ce réalisateur. Et c'était vraiment improbable parce que je...
Ça a l'air génial, en tout cas.
C'est formidable.
Tu sais où il est dispo, à tout hasard ?
Et je crois qu'il vient de sortir en Blu-ray, il me semble. Enfin, en DVD Blu-ray.
Et j'aime à la fureur.
Et il doit être, j'imagine, peut-être dispo en VOD, du coup.
Génial. En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, quand tu en parles, ça a l'air passionnant et ça a l'air une expérience assez dingue.
C'est un film qu'on a envie de partager aussi.
Comme tu le fais d'ailleurs.
J'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser.
Esther, toi, tu avais ton film préféré. Pareil, tu es sur une île déserte, tu ne peux en choisir qu'un seul. Quel est-il ton film préféré de 2022 ?
Donc moi, c'est le premier film que j'ai vu en 2022 et c'est Licorice Pizza.
Ah oui, t'as passé 12 mois avec, quoi.
Ouais, voilà.
Il n'a pas changé,
il m'a suivi, et il est resté tout en haut de mon top, de Paul Thomas Anderson. C'est pas très étonnant, en fait, j'aime tout ce qu'il fait, donc j'y allais, mais j'y suis allée, je fais comme toi, Julie, je ne regarde pas de bande-annonce, j'essaie vraiment d'y aller vierge de toute info, de toute chose qui pourrait me spoiler. Et que dire sur ce film, il est magnifique. Déjà, dans le choix du casting, il va choisir deux acteurs inconnus. Cooper Hoffman, donc le fils du regretté Philip Seymour Hoffman, un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson, mais son fils est encore très jeune, c'est son premier rôle. Il va choisir aussi Alana Haim, une chanteuse américaine qui joue pour la première fois. Deux acteurs qui n'ont pas des physiques de jeunes premiers, qui vivent leur premier amour.
Mais qui ont une belle alchimie du coup à l'écran.
Je trouve ça génial de pas avoir pris des Américains avec des gueules d'Américains, à l'heure un peu de l'uniformisation et des physiques et de la chirurgie esthétique à outrance. Je trouve que c'était une super idée de casting. Ils marchent extrêmement bien tous les deux et en fait. La caméra va chercher la beauté en fait de ces deux acteurs qu'on trouve magnifiques à la fin
du
film.
C'est un film d'époque, c'est les années 70.
C'est début des années 70 à Los Angeles. Une BO incroyable, ça je l'ai dit en début d'émission. Et j'adore le fait que en fait rien n'est prévisible dans ce film. Tout est inattendu. Dans ma tête, moi j'essaie toujours d'essayer de. C'est inné. Je peux pas m'empêcher d'essayer de deviner la fin du film et là ou de deviner la scène suivante. Et en fait. Pitié, mais il est.
Tu fais ça avec tous les films ?
Ouais.
Ouais.
Okay. C'est
peut-être,
fou.
Peut-être une carrière de scénariste.
Non, non, mais, attends,
non, non, mais en fait,
celui-là t'a surpris.
Ouais, celui-là m'a surpris, mais chaque scène où tu dis, ok, bon, alors il veut faire un business de matelas à eau. Bon, bah ça y est, il veut devenir riche, il va y arriver, le matelas à eau. Mais pas du tout. En fait, c'est un échec total. Mm. Et en fait, je sais pas. Il y a sans cesse, il nous déroute. Paul Thomas Anderson. Sans cesse, il nous fait des propositions inattendues, exaltantes. Enfin voilà, c'est un film exaltant qui donne envie de courir dans la rue, de vivre
d'être amoureux.
Ouais, ouais. D'être amoureux et puis énorme nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécue, mais les années 70, tu te dis, mais putain, mais ça avait vraiment l'air d'être la meilleure époque, quoi. Et même lui, en fait, il l'a pas si bien connu que ça, parce que je crois qu'il est né.
À la fin, ouais. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Enfin, il est né dans les années 70.
Et donc, en fait, il arrive à nous transmettre cette nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue.
Il y a un vrai mood dans Licorice et Pizza où moi, j'avais vraiment envie d'être avec eux. Enfin, comme si j'avais envie de faire partie de leur bande, ou je sais pas, de courir avec eux, de monter dans ce gros camion avec eux.
Ouais,
il y a vraiment. Et étonnamment, moi, Paul Thomas Anderson, je m'ennuie parfois, même si je trouve ça fascinant. Et là, ça m'a fasciné, ça m'a obsédé. Je suis vraiment. J'ai presque fait Nico, je suis allée le voir deux fois aussi.
T'as presque fait Nico, voilà, c'est devenu un adjectif. Bon bah super, merci pour d'avoir partagé ça. Licorice Pizza donc de Paul Thomas Anderson, oui, est sorti en janvier, donc t'as fait 12 mois avec un top, et il reste au top de ton année 2022. Moi, de mon côté, mon film préféré de 2022, pareil, j'ai aimé beaucoup de films. Top Gun, Maverick, j'ai beaucoup aimé également, j'ai beaucoup aimé The Batman, j'ai beaucoup aimé la proposition de Matt Reeves. Triangle of Sadness aussi. La formule se fatigue un peu, mais je trouvais ça assez efficace et assez fou. Après, je vais pas être très original. Mon film préféré est l'un des meilleurs films de l'année pour beaucoup de gens. C'est Asbestas de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs et Denis Ménochet, qui raconte donc ce couple français qui se retrouve en Galice à gérer une maison dans les montagnes de Galice en Espagne et à s'installer là-bas pour monter une petite propriété agricole et tenter de vivre dans un village assez reculé. Et ils vont devoir faire un peu avec cette communauté quelques Espagnols dans leur village qui ne les acceptent pas parce qu'ils sont français, ils sont étrangers. Et c'est comme d'habitude chez Sorogoyen, c'est formidablement écrit. Il y a une gestion de la tension au couteau qui est sublime. T'as des séquences là où d'autres vont jouer sur le montage pour faire des cuts, pour essayer par le montage de créer une tension, des choses comme ça. Sorogoyen, lui, fait le contre-pied total et il va te choisir des plans séquences extrêmement longs pour, dans des discussions de comptoir, dans des discussions de bar, t'installer petit à petit une tension qui monte, et toi t'es en tant que spectateur bloqué dans ces discussions tendues, et c'est suffocant et c'est fou. Et en plus, c'est un peu deux films en un, je vais pas en dévoiler plus que ça, mais il y a un peu deux films en un, et c'est tenu par des acteurs formidables. Marina Foïs, hallucinante comme d'habitude. Bref, si vous avez aimé Les Chiens de Paille, c'est pour vous. Si vous aimez tout simplement les bons films, c'est pour vous aussi. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, c'est mon film préféré de l'année 2022. Voilà qui conclut notre thème sur le bilan de l'année. On va filer sans plus tarder vers notre troisième thème et dernier thème de notre émission. C'est mon émission, j'ai le droit de choisir, donc c'est top. Et quand j'ai l'occasion de mettre un peu de musique de Michael Giacchino, ben je la mets. C'est celle de The Batman, composée par le formidable Michael Giacchino. The Batman, qui est donc l'un des grands films de cette année 2022. On a fait le bilan film par film, on va se poser la question de qu'est-ce qui reste ? Est-ce que c'est une grande année cinéma ? Et surtout, qu'est-ce qui va en rester dans 10 ans ? 2022 est-elle une grande année de cinéma pour vous ?
C'est pas une année de grand cinéma dans le sens où c'est pas une année où forcément j'en ai pris plein les mirettes, forcément une année, alors je dois le reconnaître, je n'ai pas encore vu Avatar 2, voilà, on enregistre cette émission la veille de la sortie. C'est pas forcément une année où j'ai pris le plus de claques attendues, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas l'année où The Batman m'a le plus ému, c'est pas l'année où vraiment, en fait c'est l'année où l'immense majorité de mes grosses claques, de mes grandes émotions, j'ai dû aller les chercher moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'une certaine façon, c'est pas forcément une grande année cinéma dans le sens où finalement c'est une année où j'ai dû un petit peu plus picorer, où je trouve qu'il y a énormément de films qui sont parmi les meilleurs films que j'ai vus cette année, qui sont des films qui sont passés sous le radar, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la post-pandémie, donc le streaming et tout. Beaucoup de films, mine de rien, ont été envoyés en streaming ou en VOD.
Et donc l'émotion est diluée.
Pas diluée, mais elle est assez peu accessible. C'est-à-dire que l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, vraiment, ça s'appelle Down with the King. C'est un film avec Freddie Gibbs, le rappeur, qui joue un rappeur et il a écrit l'histoire et tout. C'est un film, c'est d'une émotion, mais incroyable. C'est un film absolument magnifique, mais vraiment extraordinairement émouvant. Et c'est un film qui est sorti chez nous en VOD sans promotion. Donc, en fait, c'est une année avec beaucoup, beaucoup de grands films. Malheureusement, des grands films pas toujours très facilement identifiés ou mis en avant, je trouve. Au-delà des évidences, j'entends les Batman, les Paul Thomas Anderson.
Quel est ton sentiment, Esther?
Moi, j'ai l'impression que c'était un grand millésime. Enfin, parce que j'ai l'impression que tous les mercredis, il y avait énormément de films à voir. Et il y a toujours plusieurs périodes dans l'année où tu es avec tes potes, on va voir quoi? Oh, il n'y a rien en ce moment au cinéma. J'ai l'impression que cette phrase, je ne l'ai jamais prononcée de l'année. J'ai l'impression que justement, il y avait trop de films et je n'ai pas réussi à tout aller voir, parce qu'en plus, les films du coup disparaissent très vite des salles. Au bout de 2-3 semaines, ils ne passent plus parce qu'il y a un embouteillage. Quand tu vois les réals qui ont sorti leurs films en 2022, tu as Paul Thomas Anderson, Jordan Peele, James Gray, James Cameron, Robert Eggers, David Cronenberg,
c'est beau.
Ruben Östlund, Park Chan-wook, Kore-eda. En France, t'as Rebecca Zlotowski, Mian Sandlove, Alice Vinocourt, Dominique Moll, Alice Diop. Enfin, là, je vais pas tous
c'est
les
dingue,
citer,
ouais.
Mais je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de grands réalisateurs et réalisatrices qui ont sorti leurs films en 2022 et que depuis la rentrée, on a un nombre de films à aller voir, à découvrir. Bon, parfois des déceptions. Mais beaucoup de grands films sont sortis.
Et à ça, tu rajoutes, je ne sais pas si toi tu regardes des films de plateforme, mais à ça, tu rajoutes en plus les films de plateforme où tu as aussi parfois un Scorsese, un Guillermo del Toro,
Andrew Dominique.
Qui sort Blonde, tu as toujours des propositions. Là, tu as Bardo qui sort de Iñárritu encore.
Totalement.
Donc, oui, effectivement, tu as eu cette impression de beaucoup de grands films, de grands rendez-vous à saisir. D'accord, donc un grand millésime. Toi, Julie, c'est quoi ton sentiment?
Eh bien, écoutez, je pense que je suis un peu entre vos deux sentiments. Moi, ça dépend ce qu'on entend un peu par millésime. Est-ce qu'il y a eu un film qui m'a complètement décoiffé, dans lequel peut-être on parlera encore dans 10 ans? Je pense qu'il y en a eu plein. Je suis d'accord avec toi, Esther. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réals très, 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 très intéressants et intéressantes qui ont sorti des films cette année. Et pareil, j'ai passé ma vie dans les salles de cinéma. Et je me suis pas... Non, mais c'est vrai, cette année en particulier. Et je me suis vraiment pas ennuyée une seconde. Et effectivement, il y a eu des déceptions parmi tous ces films. Mais moi, je vois surtout une grande diversité dans ce qui est proposé aussi. Enfin, c'est qu'on peut passer d'un Nope de Jordan Peele à Bros, à Top Gun 2, à Leila et ses frères, à des choses quand même qui sont... Enfin, il y en a pour plein de gens, et je pense que...
Oui, en France, on est bien lotis.
Oui,
dans des grandes villes, surtout. Ouais.
Oui, tout à fait. Alors après, effectivement, on n'a pas forcément accès aux mêmes... Mais même dans les cinémas d'art et d'essai qui sont pas forcément à Paris, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses très intéressantes.
Mes parents sont à Chambéry, ils ont beaucoup de films comme ça.
Qui sont sortis, j'ai un peu mon thermomètre parent aussi.
C'est intéressant de voir les
films dont me parle ma mère, parce que je vois ce qui passe aussi, les médias, et elle, ce qu'elle a la curiosité d'aller voir. Et j'ai l'impression quand même qu'on avait besoin de retourner au cinéma et qu'il y a eu un vrai entrain, que ça soit de la part des gens qui le faisaient à sortir des films ou des gens qui y allaient à retrouver aussi un peu de communauté dans les salles. Donc moi, je sais pas si c'est un grand millésime. En tout cas, c'est pas un mauvais, c'est sûr.
Il y avait des belles propositions, quoi.
Il y avait des belles propositions. Et il y a une offre que je trouve vraiment quand même... Il y en a pour tous les goûts, quoi.
Retourner au cinéma. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros débat. On est tous sur Twitter autour de cette table. Il y a eu toute l'année des débats, genre pourquoi vous retournez pas au cinéma, le prix des places, des trucs un petit peu parfois stupides.
C'est vrai que c'était l'année, c'est le 2022, c'est un peu l'année du retour au cinéma.
Les chiffres sont encourageants, mais à l'époque, les mauvais chiffres ont été largement commentés par des gens qui n'y connaissent rien, alors qu'il y a des cinémas pour tout le monde, des prix pour tout le monde et des films pour tout le monde, ça on est bien d'accord.
10 ans, c'est un peu la mesure que le CNC prend pour considérer un film comme un film de patrimoine. Dans 10 ans, en 2032, on pourra dire 2022, c'était surtout ce film. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on retiendra de l'année ciné de 2022 à votre avis? Moi je pense que c'est Top Gun, mais
bah je pense aussi que vu comment dire enfin c'est pas qu'on s'en doutait pas, mais c'est quand même que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait plein de raisons pour que ça que ça chie et clairement on était quand même très agréablement surpris, et c'est ce qui a ramené aussi enfin là les familles au cinéma. Enfin moi mon père il était pas allé au cinéma depuis 13 ans et je l'ai ramené voir Top Gun 2 et il a adoré, enfin il a trouvé ça super. Mais je veux dire, c'est aussi un film qui je pense peut croiser les générations, et c'est d'ailleurs ce que ça raconte ce film, mais qui ramène tout le monde au cinéma. Donc en termes à la fois de chiffres, d'émotions, de films, de ce que ça représente pour le cinéma, je pense qu'on peut se dire que dans 10 ans on se dira que c'était peut-être l'année de Top Gun 2. Après, tout est une affaire de prisme et de qui se dit quoi et de quel film de Brad Simon. Et je suis sûre que peut-être qu'on se dira aussi que Licorice Pizza était formidable et que... Je pense qu'une fois de plus,
les voix du cinéma,
je pense que c'est effectivement un peu plus Top Gun 2 en termes d'entrée, de mouvement, de ce que ça représente dans l'économie du cinéma aussi. Mais en termes de film, je sais pas.
Ça peut être Avatar, La Voix de l'eau aussi.
Ça peut aussi être Avatar, La Voix de l'eau. Mais je pense que le box-office sera pas. Il sera cumulé sur l'année d'après.
Est-ce que les suites constituent vraiment des événements ciné qu'on retient 10 ou 20 ans après? Non, mais. C'est
intéressant. Terminator 2, par exemple, je pense que c'est un bon exemple d'une suite qui a
Indiana Jones 2 entre 80
Est-ce que 35 ans après, c'est encore une suite? Déjà, non, mais c'est une vraie question. Ça s'appelle d'ailleurs pas vraiment Top Gun 2, c'est Top Gun Maverick. Est-ce que c'est vraiment une suite? Et en plus, le premier Top Gun était tellement l'acte de naissance de Tom Cruise que moi, en tout cas, je prends le pari qu'il n'y aura pas de suite à Top Gun Maverick.
Bah, je pense pas.
Je prends le pari que ce sera aussi. On verra dans 10 ans, en tout cas dans 10 ans, je parlerai encore de Top Gun Maverick évidemment, mais que dans 10 ans, on verra Top Gun Maverick comme une forme de crépuscule. En tout cas.
Et dans 10 ans, Tom Cruise aura 70 ans. Donc
Il sera sur la Lune. Il fera Top Gun de la Lune en fusée, quoi.
Là, il y a l'émission Impossible qui arrive, mais lui, il va nécessairement, tout simplement parce que le temps et son corps le rattrapent, il va pas pouvoir faire ça éternellement. Moi, je suis persuadé qu'il y aura pas de suite de Top Gun Maverick. Et je suis persuadé que justement, toute sa carrière sera finalement enclavé entre le premier Top Gun et le dernier Top Gun.
Je pense que t'as des gens à la Paramount qui sont pas d'accord avec toi. Ils sont là genre, on a fait 1,4 milliard, on va sûrement faire un troisième.
Je te rappelle que
1,4 milliard,
ce ne sont pas les gens de la Paramount qui décident.
C'est Tom.
Oui, c'est vrai, mais bon.
Moi, j'ai peur qu'il meure en cascade, qu'il soit comme Dalida, quoi, qu'il ait envie de mourir sur scène et qu'il y a un moment où il se loupe, il manque une marche et il tombe.
Et en même temps, quelle légende.
Mais je le souhaite pas.
Non, moi non plus. Mais évidemment non.
Bah moi, je pense que c'est The Batman qui devrait, je pense, dans 10 ans, rester un peu dans les annales. Alors, c'est pas forcément pour le The Batman en lui-même, mais parce que ce The Batman-là va lancer, mine de rien, 10 ans de Pattinson en Batman, comme ça a été le cas pour Nolan et pour 8 ans de Batman avec Christian Bale. Et il faut ajouter à ça que on va être sans doute parti pour 3 films avec Pattinson en tant que Batman, et à côté de ça on va avoir des séries sur le pingouin sur HBO Max, des séries sur Arkham Asylum, des séries sur machin.
Mais du coup on se souviendra pas de The Batman, on se souviendra de Pattinson dans le costume de Batman, pas forcément de The Batman.
Ça a peut-être
parce
été...
qu'il sera encore dans le costume à ce moment-là.
Je pense qu'on se souviendra de ça comme le début d'une décennie avec une version de Batman plus intéressante, peut-être à niveau avec Christian Bale, alors qu'on a eu depuis 10 ans
j'aimais bien Ben Affleck.
Du Ben Affleck pas ouf, quoi.
Oula.
J'aimais bien Ben Affleck dans le rôle de Batman.
Et Ben Affleck tout court? Non,
j'aime bien Ben Affleck.
Enfin voilà, Esther, tu voulais rajouter quelque chose à cette ou pas du tout?
C'est par rapport au contexte politique. Je me dis que Leïla et ses frères de Saïd Roussaï pourraient rester en fait dans les annales. Moi personnellement, c'était ma palme d'or. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre et je regrette qu'il n'ait reçu aucun prix, ou il a dû recevoir peut-être un prix, je sais plus. Qui raconte l'histoire de cette famille très pauvre et de cette jeune femme. C'est une femme, Leïla, entourée de frères, qui essaie de sortir de la pauvreté en montant un commerce avec ses frères, contre la vie du père qui veut garder l'argent pour être la superstar à un mariage. Voilà, c'est un film qui parle de la société patriarcale, c'est un film qui parle de la toute-puissance du père, et je me dis, à l'heure de la révolution iranienne où toutes les femmes manifestent dans les rues, dansent, enlèvent leur voile, quand on voit ce film-là qui est centré sur un personnage féminin qui est empêché de toutes parts, peut-être que c'est le film finalement de la révolution, qui annonce en tout cas un début, les prémices de la révolution iranienne.
Oui, vrai que mine de rien, il est sorti quoi en cet été, non, il me semble. Et du coup, là, on a cette, en ce moment même, en septembre-octobre, il y a eu ce début de mouvement qui a...
Et ça rejoint un peu ce qui a été dit au tout début, c'est-à-dire est-ce que le cinéma doit anticiper, raconter, commenter. Et là, on est,
ouais, on est pile dans l'époque. Sujet, quoi. Effectivement. Mmh. Mais en tout cas, Leïla et ses frères, sans doute, effectivement, aura une résonance toute particulière 10 ans après. On en reparlera dans 10 ans dans une lumière spéciale. Voilà qui conclut ce troisième et dernier thème de l'émission. On a bientôt terminé ce bilan, ce retour sur l'année 2022. Mais on ne va pas vous quitter sans quelques petites recommandations rapides et une conclusion. Et donc voilà, comme d'habitude, Année Lumière se termine par un petit tour de recommandations rapides comme ça. Alors est-ce que vous aviez comme ça des recos, on a parlé de plein de films, des films qu'on n'a pas cités, ou en tout cas des films que vous aimeriez conseiller ou des expériences que vous avez eues. Nico, t'as eu une expérience visiblement que t'as envie de partager.
Alors j'en ai, non mais alors vraiment un chef-d'œuvre absolu, La Vraie Famille, un film réalisé par Fabien Gorja qui est sorti apparemment en 2021 mais voilà, qui est de 2022 avec Mélanie Thierry et Lies Salem, une merveille, merveille absolue. Un film, c'est l'histoire d'une famille en fait qui accueille un enfant qui est pas bien dans sa famille et petit à petit le père de l'enfant veut le récupérer et c'est d'une beauté absolue. Les acteurs sont sublimes, le film est d'une tendresse dingue. Vraiment, voyez La Vraie Famille. Et par contre,
et tu voulais passer un petit mot.
Ouais, alors c'est à la fois un coup de gueule et un cri d'amour, c'est assez paradoxal. J'aimerais qu'on parle d'Arthur Malédiction. Je suis désolé, vraiment.
Arthur Malédiction.
Vous voyez ce que.
Mais alors, de quoi s'agit-il ?
Alors
quoi
Arthur s'agit-il ? Malédiction, c'est un film produit par Luc Besson, évidemment, réalisé officiellement par Barthélémy Grossman et sorti cette année. En gros, c'est un film qui s'inspire de la franchise Arthur et les Minimoy, où en fait ça se passe aujourd'hui. C'est des jeunes qui ont 20 ans et quand ils étaient gamins, ils étaient fans absolus d'Arthur et les Minimoy, ils le sont encore aujourd'hui. Déjà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Je sais pas quels sont leurs raisons.
Ça n'a aucun sens. Et ils vont dans la maison, ils retrouvent la maison qui a servi au tournage et en fait, ça se barre en slasher fantastique et tout. C'est un film qui est un non-sens absolu. C'est à la fois une négation du cinéma et une négation...
Les frères Lumière qui tournent dans leur cercueil.
Non mais, et une négation absolue de... Même de la simple logique. Je pourrais en parler réellement pendant trois quarts d'heure. C'est-à-dire que c'est évidemment immensément mauvais. Immensément mauvais. C'est horrible. C'est affligeant. C'est nul.
Mais moi, pourquoi tu t'infliges ça?
Moi, j'avoue, je suis un peu triste pour ces pauvres étudiants de l'école de cité qui, à mon avis, ont
qu'on salue,
d'ailleurs. Qu'on salue. Je sais pas si ça existe encore, l'école de cité, mais...
Tout le process est horrible, tout le film est horrible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des très mauvais films où tu passes un mauvais moment. Celui-là est un mauvais film où tu passes un mauvais moment, mais où tu ne peux pas t'empêcher vraiment, vraiment de t'interroger. Je ne vais pas le nier. J'ai une petite fascination pour ce film, un petit kink.
Arthur Malédiction.
Normalement, il alterne, il fait Top Gun 2 et Arthur la Malédiction
dans sa chambre d'hôpital psychiatrique.
Un double feature.
Les soirées Nico, bienvenue.
J'ai deux DVD dans ma cellule.
Est-ce que vous avez, vous, des recos comme ça à la volée, des films dont on n'a pas parlé, que vous aimeriez glisser dans l'oreille des auditeurs?
Oui, alors moi, c'est un film norvégien.
Allez.
Ne partez pas en courant, qui s'appelle Ninja Baby, d'une réalisatrice.
Titre formidable.
Voilà, qui s'appelle Ingvild Sveflicke. C'est adapté d'une bande dessinée. C'est une jeune femme qui tombe enceinte, en fait, qui se rend compte quand elle est enceinte de 6 mois, qu'elle est enceinte, donc elle ne peut plus avorter. C'est une sorte de Seth Rogen norvégienne féminine, voilà, sortie d'un Judd Apatow qui est hyper crue, qui adore se mettre des rats, se coucher avec des mecs tous les soirs, un nouveau mec qui parle de caca sans être gêné et qui ne veut pas du tout de cet enfant mais qui est obligée de faire avec cette grossesse. Il lui reste 3 mois, c'est en plus un vieux coup d'il y a 6 mois, elle se rappelle même plus qui est le futur père de cet enfant. Et en fait, ce bébé est dessiné et apparaît à l'image. C'est un petit bébé qui elle a un dialogue. Voilà, c'est son dialogue intérieur, mais qui est incarné par ce petit bébé qui a une voix démoniaque et qui lui aussi, en fait, parle de manière très crue et dit des trucs dégueulasses. Et voilà, et c'est très très drôle. Et en même temps, ça parle d'un sujet qui est très fort, qui est la maternité quand on n'a pas envie de devenir mère. Et en même temps, très drôle. Et l'actrice principale est incroyable. Voilà.
Ninja Baby. Ouais.
Il n'est pas resté longtemps à l'affiche. Il est vraiment resté 2 semaines. Ouais. Et genre, la deuxième semaine, en séance de 22h, tu fais les gars, mais s'il vous plaît, laissez-le.
Bah, c'est l'embouteillage, quoi, dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
Trop de choix. Mais en tout cas, merci Esther pour cette ultime reco. Toi, Julie, est-ce que tu as une dernière reco à à nous donner.
Oh, oui, je peux vous parler d'une comédie romantique qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Bros, de Nicolas Stoller, qui raconte l'histoire de... comment dire, d'un homme qui cherche l'amour, ouais. plus ou moins. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu parce que je trouve ça déjà hyper, hyper bien joué. C'est très, très drôle. J'avais pas ri depuis longtemps comme ça au cinéma.
Ouais.
Et en même temps, j'ai été emportée par leur histoire d'amour. Quoi. Ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, n'hésitez pas, Bros. Après,
Bros,
j'en ai plein
B-R-O-S,
d'autres.
Du
mais ouais. Il y a aussi Straight Up que je vous conseille, qui est un très bon film, une espèce de film un peu ovniesque qui parle de, enfin c'est une semi-comédie romantique, enfin je sais pas si on peut si c'est une comédie ouais. romantique, mais très particulière, très très intellectuelle, enfin pas dans le mauvais sens du terme, hein, ouais. mais très intellectualisante, je pense.
Cérébrale un petit peu.
Très cérébrale, ouais. très très cérébrale.
On a Bros du coup.
Bros et Straight Up, mais j'aime bien les mettre en, pas très loin parce que.
En double feature, pareil.
Ouais, c'est
d'accord.
Comédie romantique de 2022 quoi.
Pareil, merci beaucoup Julie pour ces ultimes recos. Et avant de vous quitter, moi je vais vous glisser comme ça une petite reco également très rapidement. Pour moi, ça a été une belle année de documentaire. J'ai eu récemment vu Fire of Love, qui était au cinéma en septembre, qui arrive sur Disney+, qui est un formidable documentaire sur des volcanologues, un couple de volcanologues français, qui est un documentaire d'amour et de volcans assez ouf, un peu dans l'esprit Wes Anderson. Donc ça c'est dingue, mais du coup j'aimerais vous quitter avec un documentaire sur Ennio Morricone. Un documentaire de Giuseppe Tornatore appelé tout simplement Ennio et consacré donc au célèbre compositeur de films. Alors c'est un film qui est un peu trop hagiographique bien sûr, mais c'est un film qui propose de repartir dans toute une histoire du cinéma de la fin de la deuxième partie du XXe siècle, toute une histoire de la musique de films, toute une histoire de la musique en général, toute une histoire de la télévision, bref, c'est refaire véritablement le XXe siècle avec Ennio Morricone et avec son cinéma et cette musique que vous entendez actuellement. Il y a des intervenants de fou. On a Clint Eastwood, on a Bruce Springsteen, on a Hans Zimmer, on a Tarantino, on a Wong Kar-wai, John Bez, Dario Argento. Enfin, c'est complètement stellaire, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, c'est un documentaire, moi, qui m'a laissé en larmes parce que Ennio Morricone, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Et du coup, si vous voulez, voilà, juste vous sentir un peu plus flotté et puis vous refaire une tranche de cinéma avec un angle très intéressant qui est sur la musique, sur un personnage particulier qui, pour lui, pour le coup, lui, restera sans doute 100 ans, 200 ans dans l'esprit des gens. Voilà, Ennio de Giuseppe Tornatore, c'est formidable. En plus, il y a des images inédites du compositeur chez lui au travail. Et ça, c'est une pépite vraiment à saisir dès que vous le pouvez. Voilà, voilà qui conclut cette émission exceptionnelle d'Année Lumière consacrée à 2022. Un immense merci à mes invités Esther Brejon, Juliana Grignon et Nico Pratt. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et toute l'équipe de Tsugi Radio. Merci enfin à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. On vous souhaite une joyeuse année 2023 et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous!